the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a...
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Au programme aujourd'hui, comme à notre habitude, de l'actualité locale et notamment un match du SCO d'Angers face à Montpellier qui était ô combien important et spoiler, Angers s'en est très bien sorti. En fin d'émission, on reviendra aussi sur l'actualité internationale avec du cyclisme, du tennis et du football. Mais avant ça... Aujourd'hui, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas eu. La dernière fois, c'est du triathlon. Mais nous avons un invité qui est venu nous parler de lacrosse. Pour cette émission, autour de la table, on retrouve Mathéo à la régie cette fois-ci. Et en plus, qui prendra en main l'interview. Mathéo, comment ça va?
Et bonsoir à Maury, bonsoir à tous. Ça va très très bien. Écoute, très heureux de te voir prendre cette place aussi d'animateur. Ça change, on a tous un rôle hybride ce soir, c'est cool.
Un autre présent à ma droite, c'est Paulin. Paulin qui est là pour sa deuxième émission et qu'on a déjà mis au travail avec de l'actualité basket. Il remplace un petit peu le rôle de Faustin. Paulin, comment tu vas?
Salut Amaury, bonsoir à toutes et à tous. Ça va super, on a une belle soirée sportive en perspective, donc tout va bien.
Et donc notre invité aujourd'hui, Julien, qui est venu nous parler de lacrosse.
Bonjour à toutes et à tous, effectivement je suis là pour présenter le club d'Angers Lacrosse.
On va commencer sans plus tarder pour ne pas perdre de temps. On va direct se tourner vers toi, Paulin, pour nous parler de l'actualité locale en basket. Ça a gagné, je crois, du côté des clubs locaux.
Exactement. On commence par l'EAB. Victoire contre Metz, 84-79, vendredi dernier. L'EAB conserve sa bonne dynamique en poule basse de National 1 dans cet objectif de maintien avec la volonté de revenir encore plus fort. Ce soir, l'EAB se déplaçait à Besançon, qui se positionne juste derrière eux au classement. Le coup d'envoi a eu lieu à 20h. Donc là, les joueurs angevins démarrent actuellement leur belle bataille pour aller chercher la victoire. Ils vont certainement tout faire pour continuer leur bonne série où ils n'ont seulement concédé que 2 défaites sur 12 matchs depuis février. Côté UFAB, c'est playoff time. Si vous ne savez pas quoi faire jeudi soir, quart de finale face à Charnay à 18h45 à Jean Bouin. Soyez nombreux pour aller supporter les filles. Du côté de Cholet Basket, victoire face à Nanterre 88-78. Belle performance de Gérald Ayaï avec 21 points. CB est quatrième de Betclic Elite, mais seulement à 1 point d'écart des leaders Monaco, même si eux ont un match de retard. Ils peuvent encore grappiller des places au classement et ça commencera ce week-end face à Nolan Traoré, le jeune prodige français, et son équipe Saint-Quentin. CB a encore 5 matchs à jouer, dont 2 à domicile, et pourra compter sur l'ambiance électrique de la Meilleraie pour poursuivre sa magnifique saison et se préparer aux playoffs.
Donc de la victoire en basket et de la victoire aussi en volley ce week-end. Une victoire importantissime pour les garçons du SCO Volley qui gardent un petit espoir de maintien grâce à leur succès 3-7-0 contre Villepreux. Il ne reste maintenant qu'un seul match de championnat. Et quel match? Ce sera face au premier non relégable. Un affrontement décisif qu'il faudra absolument gagner pour continuer à espérer. Mais c'est pas tout. Parce que quand je dis que ça relève de l'exploit, il faudra ensuite compter sur un faux pas de Saint-Renan, donc qu'ils auront affronté juste avant, pour leur dernier match, pour que le SCO puisse se maintenir. Chez les filles en National 2 également, pas d'inquiétude, elles restent solidement accrochées à leur 7e place, malgré une défaite en 5-7 ce week-end. Le maintien est assuré, et elles peuvent désormais jouer sans pression. Du côté du handball, Angers s'est encore bien battu ce week-end. C'était du côté de Saran, mais à l'image de ses dernières prestations, très bien battu. Mais la victoire n'a pas suivi, défaite 31-26, c'est une équipe qui joue le haut de tableau. Le SCO va mieux dans le jeu, les prestations sont plus solides qu'en début de saison, on a déjà reparlé, mais le réveil semble maintenant quand même trop tardif, car devant, les concurrents directs au maintien ont pris des points, et avec un calendrier qui est compliqué à venir, le maintien par la voie sportive en tout cas devient quasiment mission impossible. En football, maintenant, on parlait depuis des semaines du match face à Montpellier qui relevait d'une importance capitale pour le SCO au milieu de ce calendrier fou. Les Angevins n'ont peut-être pas forcément brillé tout le long du match, mais ont assuré l'essentiel, j'ai envie de dire, Mathéo.
Oui, ça a été un match plutôt intéressant pour le SCO quand même. Déjà, le fait de marquer rapidement dans cette rencontre, c'est quelque chose qui n'est pas récurrent pour le SCO et c'est plutôt logique pour un club qui joue le maintien. Maintenant, le Pôle s'affirme encore, continue aussi de briller et d'être assez décisif. Cette équipe de Montpellier, elle a des problèmes, ça on le sait depuis le début de la saison et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a beaucoup trop vu dans cette rencontre. Je pense notamment à ça aussi, c'est assez drôle quand on pense au club de bas de classement, mais l'action, le loupé d'El Melali, le poteau qui est assez drôle, qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, qui est assez marrant. Mais sinon, c'est un match quand même plutôt sérieux du SCO, je dirais, dans l'application, même si on a eu une présence plutôt forte des Montpellierains en surface de réparation, ce qui est assez dommage, malheureusement. Mais le SCO a su prendre les 3 points et je pense que c'est tout ce qu'on va retenir de cette rencontre.
Une action qui est drôle, mais une chance qu'on gagne à la fin. Parce que si tu gagnes pas ou tu fais match nul sur un poteau, sur cette situation-là, franchement,
c'est compliqué. Mais Montpellier n'a pas été dangereux et donc le SCO derrière va chercher cette victoire, ces 3 points.
Paulin, t'as pu suivre ce match?
Ouais, j'ai regardé un petit peu. Bon, c'est vrai que le raté d'El Melali, il fait un peu sourire, mais globalement, la performance du SCO, elle est satisfaisante. On a failli se faire peur en fin de match. Il y a eu une grosse occasion là sur le centre des Montpellierains. Bon, ils la mettent pas, tant mieux pour nous. Il y avait une belle ambiance à Raymond Kopa. Victoire importante pour le SCO et on espère que ça va continuer pour le maintien en Ligue 1.
Oui, un beau tifo pour le SCO, c'est rare, donc il faut le souligner. C'était un beau tifo des supporters en Angevin. Maintenant, prochain rendez-vous pour le SCO sera contre Nice. Le match aller contre Nice avait été très compliqué. C'est le seul que j'ai pu voir à Raymond Kopa cette année. Ben, on espère qu'ils font un peu mieux et qu'ils resteront sur une série de victoires. Mathéo, je vais pouvoir te lancer sur l'interview. C'est parti, t'as la main.
Eh oui, parce que comme tu l'as dit avec nous ce soir, Julien, donc président du club de lacrosse d'Angers. Alors Julien, avant de revenir un petit peu sur le lacrosse à Angers, on a un peu cette question qu'on donne souvent à nos invités comme première question dans Génération Sport. C'est quoi lacrosse?
Le lacrosse, c'est un sport qui vient des États-Unis. C'est un sport amérindien à la base, qui a été créé il y a plus de 1000 ans par les peuples Haudenosaunee, qui ont été ensuite appelés les peuples Iroquois par les colons français. Et au XVIIe siècle, c'est un sport qui a été pris par les colons pour, qui a été transformé d'une certaine façon dans sa version assez moderne du sport et qui a pas arrêté d'évoluer sur l'équipement maintenant qui est porté. Maintenant on a des casques, on a des gants, on a des coudières, on a des crosses en aluminium alors qu'avant c'était des crosses en bois avec des fils de cuir. Là aujourd'hui c'est du mesh. Et on a des têtes de crosses en plastique dur. Ce qui permet d'avoir un équipement désormais moderne du sport quoi.
Et comment ça se joue concrètement dans les règles? Si on prend un match de lacrosse, comment ça se passe?
C'est un sport qui se joue. En fait, il y a 3 façons de jouer au lacrosse. C'est un petit peu la petite complexité. Pour les hommes, en tout cas, il y a parce qu'il y a une autre version féminine. Enfin, c'est ce qui rajoute à la complexité. Il y a une version historique du sport qui s'appelle le lacrosse field. Donc, c'est du 10 sur 10 sur un grand terrain. Un grand terrain pour nous, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, de football. Donc c'est du 10 contre 10 dessus, et il y a une version qui ira aux Jeux Olympiques, qui est du 6 contre 6 sur l'équivalent d'un demi-terrain de foot, donc ça c'est en version extérieure, et il y a une version intérieure qui s'appelle du box lacrosse, box B-O-X pour dire en enclos, et ça se joue sur un terrain de roller hockey à peu près, où il y a des barrières sur les côtés, et on a des règles de contact qui se rapprochent de celles du hockey sur glace, où on peut plaquer l'autre contre les rambardes, et qui est une version où on est à 6 contre 6 sur un terrain de roller hockey. L'objectif, en fait, c'est de se faire des passes avec une crosse qui ressemble un petit peu à un filet à papillon, si on prend un usage qui est quelque chose qui va parler à tout le monde. Donc, on a cette crosse, on a cette balle dedans, on peut marcher autant qu'on veut ou courir autant qu'on veut une fois qu'on a la balle dans la crosse. On se fait des passes avec et on essaie d'aller marquer dans un but qui est gardé par un gardien. Voilà.
Et au niveau des règles plus spécifiques, est-ce qu'il en existe aussi? Tu parles de passes, est-ce qu'il y a des hors-jeux, par exemple?
Il n'y a pas de hors-jeu. On a Une des spécificités, c'est que le but n'est pas sur la ligne du bout du terrain. C'est-à-dire que le but, il est rentré à l'intérieur du terrain. Il y a, tu peux passer derrière le but, un petit peu comme au hockey sur glace, mais sauf que la zone qui s'appelle X, qui est derrière le but, en fait, est largement plus profonde. Et donc, c'est une vraie zone tactique de passer derrière le but et ensuite la personne qui est le gars qui est derrière le but, ce qu'on appelle le X guy. Grosso modo, lui, il peut avoir une autre vision du jeu et organiser le jeu différemment. Donc, on peut vraiment passer très souvent derrière le but, quoi.
J'imagine qu'il y a plein de tactiques différentes aussi. Comment on en vient justement à choisir son poste? Est-ce que c'est par rapport aux qualités athlétiques aussi, je sais pas, à la tactique qu'on peut avoir en tête?
Ouais, bah il y a aussi beaucoup de contacts au lacrosse. On a le droit de faire des contacts. Il n'y a pas autant qu'au rugby, mais on a le droit d'aller pousser l'autre entre la hanche et l'épaule. Les contacts peuvent être assez violents quand même, même si. Enfin, moi, enfin, pour l'instant, de mon expérience en lacrosse, j'ai pas encore eu ni vu de blessure liée à des contacts, puisqu'ils sont, ils sont quand même assez encadrés. Mais et surtout, on est protégé pour ça, donc ça le fait. Comment est-ce qu'on choisit son poste? Oui, il y a une notion de technique en fait. Les attaquants sont en général ceux qui sont le plus technique, crosse en main. Les midfield, donc les milieux de terrain, sont ceux qui en général ont le plus de cardio, et les défenseurs sont ceux qui ont pour objectif d'être un peu les plus rugueux pour aller bouger justement les attaquants. En lacrosse field, donc en 10 contre 10, qui est la version historique du sport, quoi, les défenseurs, ils ont une long stick, une crosse qui fait 1m80 de long, alors que les autres n'ont des crosses que de 1m à peu près. Et les défenseurs n'ont pas le droit de remonter au-dessus de la moitié de terrain, et les attaquants n'ont pas le droit de descendre en dessous de la moitié de terrain. Ce qui fait que il y a trois défenseurs, trois milieux de terrain, trois attaquants. Les trois défenseurs n'ont pas le droit de monter, les trois attaquants n'ont pas le droit de descendre, et les seuls qui font en fait la patinette entre l'attaque et la défense sont les milieux de terrain. Donc on se retrouve toujours à des situations de 6 contre 6 contre un gardien, quoi. Voilà.
Et est-ce que tu dirais justement que ces règles-là, elles ont pas été inventées aussi par show américain, on va dire, un peu comme dans les sports comme le football américain ou comme tant d'autres? On sait que les Américains sont très showman et très très fans du spectaculaire aussi dans le sport.
Alors les règles, elles ont... Alors je ne sais pas comment ces règles ont été créées à la base, j'en sais rien, mais sur, enfin, ou si elles ont été modifiées à l'américaine pour faire du show. En revanche, à l'époque des premiers matchs, on utilisait les buts, c'était parfois un caillou ou un arbre, et le terrain, enfin, il n'y avait pas de dimension du terrain. Les peuples d'Haudenosaunee parfois jouaient sur des terrains qui faisaient plusieurs kilomètres de long. C'était un jeu qui était appelé le jeu du créateur. Il avait pour objectif soit de réunifier les peuples, les différentes tribus, soit de prendre des grandes décisions. C'est-à-dire que si, plutôt que de se faire la guerre, en fait, on faisait un match à parfois 150 joueurs contre 180, parfois un millier de joueurs, les matchs pouvaient durer parfois plusieurs jours sur des terrains de plusieurs kilomètres. Enfin, il y avait aucune, enfin, en vrai, ça devait être génial. J'aurais trop kiffé les jouer, ces matchs-là. Mais il devait y avoir des petites dingueries à l'époque. Et c'est les gagnants de ces matchs. Enfin, le peuple gagnant, l'équipe gagnante, du coup, avait le droit de prendre la décision, sur lequel il fallait décider quelque chose, quoi.
Et depuis, donc, le sport a bien changé, a migré aussi, est passé de pays en pays jusqu'à arriver à Angers. Donc, en septembre 2024, pourquoi avoir créé le club du Angers Lacrosse?
Alors, j'ai voulu créer ce club-là parce que déjà, moi, je m'y étais mis suite aux Jeux Olympiques à Paris. J'avais envie de me lancer dans le lacrosse parce que le lacrosse va être aux Jeux Olympiques 2028. Et avec un peu ce rêve fou, tu sais, on a tous un peu ce truc de, vas-y, en vrai, si je me mets à un sport pendant 4 ans, est-ce que je vais aux JO, tu vois? Et est-ce qu'il y a moyen d'aller aux JO? Et c'était un petit peu ce truc-là au départ, en me disant, est-ce que, voilà, si je m'y mets, mais vraiment de façon obsessionnelle, à m'entraîner 5 fois par semaine, ce genre de choses. Est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, la première chose qu'il fallait, c'était pouvoir créer un club sur la ville, quoi. Et il y avait une ou deux autres personnes qui étaient chaudes de le créer. Donc, on s'est mis en association tout de suite. On l'a créé au tout début. On faisait des entraînements. On était 3-4, hein. Et après, il se trouve que, ben, de métier, je suis barman. J'ai deux bars en centre-ville. Donc j'utilisais en fait les bars et les télés du bar pour recruter des gens à chaque fois. Il y avait un sport qui était absolument pas connu sur les télés. Donc du coup j'utilisais ça pour présenter en fait le sport et dire on s'entraîne dimanche à 14h, si t'es chaud viens quoi. Et de fil en aiguille ça s'est pas mal développé. Là on est presque une vingtaine de licenciés au club entre septembre et maintenant. Donc c'est plutôt pas mal pour un jeune club, surtout que on a pas mal galéré à acheter tout le matos, mais parce qu'il faut des crosses, des gants, des coudières, des casques, et pas mal de balles aussi, et un terrain qu'ils veulent bien de nous. Donc on a réussi à développer un petit peu tout ça, et aujourd'hui on est un club qui pourrait prendre plus de licenciés quoi.
Tu nous parles des équipements, justement. Mm-hmm. Est-ce que vous, de votre côté, quand vous accueillez des nouveaux licenciés, il y a un pot commun, quelque chose qui permet justement à ces nouveaux licenciés d'avoir accès au sport directement et d'avoir sa crosse, pourquoi pas, en prêt, hein, bien sûr, mais est-ce que ça existe, ça, de votre côté?
Oui, bien sûr, parce que c'était hyper compliqué de dire « Salut, tu ne connais pas ce sport, investis dans 200 ou 300 euros de matériel pour pouvoir faire une séance d'initiation. » Donc ça allait pas forcément trop marcher. Oui, effectivement, au fur et à mesure sur les 6 premiers mois, mon objectif avec le club, c'était d'acheter du matériel. Suffisamment de crosses, des casques, des gants, ça s'est pas fait tout de suite, hein. On a démarré, on avait 10 crosses, c'était tout. 10 crosses, des balles, donc on jouait sans contact, voilà. Après, une fois qu'on avait réussi à investir dans des gants, dans les premiers casques, voilà. En sachant qu'un casque de hockey fait parfaitement l'affaire. Il y a beaucoup de matériel qu'on peut réutiliser. Des gants de hockey feront l'affaire pour des initiations. Après, faut passer sur des gants de lacrosse, mais il y a quelques similitudes qu'on va pouvoir trouver, mais notamment sur les casques. Et on a la chance d'avoir à la fois les Hawks et le club des Ducs d'Angers. Donc il y a pas mal de casques de hockey d'occasion sur le Bon Coin, en région Angevine et alentour. Donc je les ai à peu près tous achetés pour le club. Et voilà, donc on a du matériel et on le prête à toute personne qui vient pour essayer notre sport.
Pour s'initier, il faut aller à des entraînements, bien sûr. Les premiers étaient ouverts au public. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
C'est absolument toujours le cas. On recrute tout le temps. Donc chaque dimanche, on a un, deux ou trois nouvelles personnes qui viennent pour essayer. Avant on s'entraînait à l'Urban Soccer pendant tout l'hiver, et là on est à la halle Jacques Millot à Belle Baye. C'est sur le terrain c'est génial parce que c'est un terrain de handball qui est couvert. Donc s'il pleut, on est couvert. S'il y a trop de soleil, on est quand même à l'ombre. Et c'est un terrain en dur, donc on va pouvoir pratiquer le box lacrosse dessus, quoi.
Il y a un mot qui est assez récurrent aussi sur vos publications. On voit justement ces entraînements. C'est le mot dears. Dears qui signifie en anglais cerf ou biche. J'ai vu les deux traductions.
Ouais, les cerfs, ouais.
Les cerfs, on va prendre ça. Justement, donc c'est pour faire référence au logo.
Ça fait moins, tu vas prendre des contacts, tu vois.
Mais bon, on est jamais trop sûr. Là, j'ai vu les deux traductions. Je me permets de prendre les deux. Justement, c'est parce que vous avez un cerf sur votre logo. Pourquoi avoir choisi cet animal?
Il y a même pas trop de trucs. En fait, on était deux au tout début du club, on était deux et on cherchait un petit peu des logos sur le ChatGPT, on regardait un petit peu ce qui se faisait bien. Les autres clubs, ils avaient tous un animal totem. On s'est dit, ça s'est peut-être fait autour d'une bouteille de Jägermeister aussi.
Voilà. Commence à comprendre.
À consommer avec modération, voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, le jour où vous trouvez quelqu'un qui s'appelle Modération, vous me l'envoyez parce que j'aimerais bien boire un coup avec cette personne.
On aimerait tous boire un coup avec cette personne. Voilà. Mais pour revenir au logo aussi, il est très américain dans la forme. Hein. On a vraiment l'impression de voir un logo de hockey, par exemple. C'était la volonté pure et dure de dire, regardez, nous, on a un sport aussi un peu américain. Je sais que ça peut être une force dans le marketing. On en avait parlé aussi avec les Yankees, par exemple.
Alors, aujourd'hui, on a une force énorme avec l'IA de pouvoir faire des logos à assez rapidement et à pas trop cher. Le moment où j'ai généré ce logo-là, je me suis dit tout de suite, c'est bon, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi, en fait, je vais juste demander de me faire le logo d'un club qui s'appellerait Angers Lacrosse avec un cerf, et ils m'en a pendu 2-3, et quand j'ai vu celui-là, j'ai fait, bah, franchement, il était vraiment cool. Donc j'ai demandé à un ami qui est graphiste s'il pouvait me le redessiner, basé sur l'image initiale. Ce qui a été fait, donc maintenant on l'a vectorisé. On a un très beau logo. Moi, je suis très content de ce logo, quoi. Voilà.
Et il prend beaucoup de place sur le maillot que tu portes actuellement. Parle-nous de ce maillot et du processus aussi de création. J'imagine qu'il a été assez intéressant, forcément.
Ouais, bon, tu vas sur un site qui te permet de configurer un maillot, tu fais le maillot et puis t'essayes de le mettre directement, enfin, d'en produire. Ça s'est fait de manière totalement artisanale. Voilà, sur mon temps libre.
Et le choix des couleurs aussi, j'imagine, du coup.
Ça c'est différent parce que mon bar, j'ai un de mes bars dans lequel la plupart des membres du club se sont retrouvés. Ses couleurs sont vert et rouge, et on a fait le petit clin d'œil sur le maillot du club qui est vert et rouge. Il y a pas vraiment de méga d'explication ultra. C'est juste simple, quoi.
Justement, les bars, je me posais la question aussi, parce que vous avez des partenaires, forcément, ouais. Et on en voit beaucoup qui sont par exemple des restaurants, je pense, ou des bars, je pense à La Radio, par exemple, ouais. qui est un restaurant qu'on a vu sur votre compte Instagram aussi. Est-ce que c'est plus des restaurants et des bars qui se tournent vers vous pour devenir des partenaires?
Alors, aujourd'hui, personne ne se tourne vers moi pour me dire, hey, mon gars, est-ce que t'es pas chaud d'avoir un partenariat avec telle entreprise pour ton club? C'est moi qui vais pas mal en démarcher, et il se trouve que Yannick de La Radio, qui est un restaurant Angevin, c'est un ami de longue date, et quand je lui ai présenté le projet, il m'a dit oui, je t'avais souvent vu avec ta crosse et tes trucs, et je lui ai présenté le projet et très très amicalement, et il m'a dit qu'il serait motivé à soutenir. Donc un grand merci à lui, mais il y a pour l'instant, c'est comme c'est un secteur d'activité dans lequel je travaille, j'ai plus de contacts là-dedans. Si jamais il y a d'autres entreprises qui ont envie de venir me voir ou venir voir le club, hein, n'importe qui du club est habilité à prendre des partenariats, bien sûr. On est parfaitement ouvert à la question, si jamais c'était ça l'idée.
Je vais revenir maintenant un peu plus sur le volet sportif du club en tant que tel, parce que depuis tout à l'heure on parle du club en tant que presque marque, parce que c'est ça aussi. Mais forcément sur le volet sportif, vous faites des matchs, vous vous déplacez beaucoup également partout en France. Forcément, c'est un temps d'investissement.
Alors, ce sera le cas l'année prochaine. Pour l'instant, comme le club était assez jeune, on n'a pas pu être intégré au championnat de France, puisque en septembre, au début du championnat de France, nous, on était littéralement que 4 licenciés, donc c'était pas possible. Mais l'année prochaine, c'est une décision qui va falloir se poser. Il va falloir prendre cette décision sur est-ce qu'on s'inscrit au championnat de France ou pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'on puisse se déplacer à 12 personnes, puisqu'une équipe de 6, puisque le championnat de France se joue en lacrosse 6-6, donc c'est 6 personnes sur le terrain, mais il faut être une équipe de 12, puisqu'il y a des rentrées et des sorties très très régulières, donc il faut être une équipe de 12. Et est-ce qu'on est capable, avec le nombre de licenciés angevins, de pouvoir se déplacer sur 3 week-ends par an, puisque le championnat de France se joue lors de 3 week-ends annuels. Est-ce qu'on est capable de se déplacer à 12 personnes sur 3 week-ends dans l'année? Si j'estime que c'est le cas au milieu d'année, au début du championnat, j'inscrirai l'équipe. Si j'estime que c'est pas possible, en fait, il y a une possibilité, c'est de s'allier avec l'équipe de Caen et de faire un Angers-Caen mutualisé, si tu veux, et de mutualiser nos compétences pour avoir une équipe qui soit pertinente sur le championnat de France l'année prochaine. Donc, de toute façon, on va jouer le championnat de France l'année prochaine. De toute façon, il y aura des Angevins dans le championnat de France de lacrosse l'année prochaine. La seule question, c'est est-ce que Angers pourra y être en tant que tel, ou est-ce que ce sera un mix avec Caen?
Tu nous parles de Caen, justement, j'allais y venir. Est-ce que là, vous avez un déplacement qui arrive en mai, mm-hmm, à Caen? Est-ce que c'est pas là aussi une sorte de petit test pour voir si vous avez la capacité de pouvoir intégrer le championnat de France?
La revanche. Caen se sont déplacés et sont venus un dimanche sur Angers.
Accompagnés d'Orléans et de Paris, c'était ça?
Exactement. Donc il y avait Caen et Orléans qui ont fait une équipe mixée contre nous. Il y avait deux apports de d'Orléans, mais les deux apports d'Orléans, c'était un joueur de l'équipe de France et un joueur de l'équipe du Luxembourg. Donc il y a eu un vrai upgrade de l'équipe de Caen, même s'ils ont des bons joueurs, faut leur laisser. Mais ils nous ont vraiment battus. Sur un score assez fleuve d'ailleurs. Je crois que c'était un 13-4, un truc comme ça. Enfin bref, ils nous ont vraiment explosé. Et j'attends vraiment cette date du 18 mai pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sans les apports d'Orléans et de faire cette revanche. Et donc faire un match à la loyale entre l'équipe de Caen contre l'équipe d'Angers et pas un mix Caen-Orléans, même si c'était un super dimanche. Et effectivement, ça va être un test aussi de notre côté, puisque là, se déplacer sur Caen, on arrive à le faire sur une journée. Donc, on va être 12 personnes d'Angers à pouvoir y aller, donc ça sera facile. Mais la grande question sur le championnat de France l'année prochaine, c'est de pouvoir se déplacer sur un week-end complet, en sachant qu'on a pas mal de joueurs du club qui travaillent dans des commerces en centre-ville, qui bossent le samedi. Donc, est-ce qu'ils auront la possibilité l'année prochaine de poser les samedis de congé, ce genre de choses, pour pouvoir s'adonner à ce sport?
C'est tout un tas de questionnements aussi, et on va continuer d'en avoir, nous, des questionnements sur la crosse. Juste avant ça, on va partir en pause musicale. Tu restes bien avec nous, Julien.
Avec plaisir.
Par rapport justement aux Jeux Olympiques, on va s'écouter Night Call de Kavinsky. There's something inside you. Night Call de Kavinsky sur Radio G. Il est 20h32. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Sport et nous sommes toujours avec toi, Julien, du club de la crosse Angers. On est ensemble depuis 20h. On a couvert pas mal de sujets, mais il y en a qu'on n'a pas couvert encore totalement, notamment la sensibilisation à un jeune public. Je sais que il y a peu, tu t'es rendu du coup au Sco Handball, où tu as joué avec, ou en tout cas montré la crosse à des U10 et des U13, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'était un super moment. Super moment. Il se trouve que un de mes bars est partenaire du SCO Handball, et ils sont, comme moi je présente toujours du lacrosse dans mon bar, il y en a toujours un petit peu à la télé. Il y a une des salariées du club qui est venue me poser la question si jamais lors d'une des journées du club du SCO, ils avaient plusieurs groupes de jeunes qui étaient là, et de faire une initiation au lacrosse dans la salle du Hara, qui est magnifique, et pouvoir s'entraîner là-dedans, ce serait vraiment magique, mais ça c'est un autre sujet. Et effectivement, il y avait deux groupes de 20 enfants, les U10 et les U13, et c'était vraiment un super moment d'initiation, et moi je trouve ça cool de pouvoir partager avec d'autres générations comme ça. J'y suis allé avec le gardien du club, donc lui il s'est mis dans les buts, et puis il s'est fait tirer dessus toute la journée par des gamins. C'était vraiment cool. Dans ce cadre-là, en fait, si tu veux, moi j'avais des crosses à mettre à disposition, et on jouait pas avec les vraies balles de la crosse, parce qu'une vraie balle de la crosse, en fait, ça fait 140 grammes, c'est en plastique dur, et si tu te la prends sur le coin du nez, en vrai, ça peut faire assez mal. Donc, on a joué avec des balles de tennis. Et on a joué sans contact, et puis c'était hyper cool, enfin, de leur montrer un petit peu les bases du maniement de la crosse. À la fin, on a même fait un match. Donc c'était vraiment, vraiment un super moment avec eux, ouais, de partage.
Et toi, t'avais déjà fait ça, de l'initiation à un jeune public, ou c'était la toute première fois?
Dans mon métier, avant barman, oui, mais c'était plus sur de la sensibilisation écologique à des problématiques écologiques. Là, pour le coup, sur du sport, non. Et c'était un vrai bon moment.
Est-ce qu'ils étaient plus attentifs justement au sport que à la cause écologique?
Non, c'est toujours la même. Enfin, on parle pas des mêmes sujets là.
Oui, bien sûr, non,
vraiment,
c'est sûr.
On parle pas des mêmes sujets la plupart du temps. Si t'arrives à capter leur attention, ils te la donnent. Et c'est à toi de la garder après l'attention des gamins.
Toucher les gens, en tout cas, que ce soit un jeune public ou un public plus large, c'est aussi un de vos objectifs pour continuer à faire grandir le club. Parce que des objectifs, vous en avez beaucoup. On a parlé du championnat de France l'année prochaine, mais de manière plus large, c'est pourquoi pas s'inscrire dans la durée dans les plus gros clubs français aussi sur un sport qui continue de monter. On est à plus de 500 adhérents aujourd'hui en France, 12 clubs également. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Comment est-ce que toi tu vois ça, l'expansion du lacrosse en France?
En fait, l'année dernière, il y avait 93 licenciés en France. Aujourd'hui, on prend en moyenne plus 15% de licenciés tous les 3 mois en France, et là on est quasiment 500. Donc l'effet JO a vraiment apporter quelque chose de lacrosse en France, quoi. Donc il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus essayer. Et ce qui est trop cool avec ce sport, c'est qu'une fois que t'essayes, en général, t'aimes bien. Enfin, j'ai connu assez peu de monde qui sont venus essayer et qui ont détesté ça. Il y en a aucun. Et les seuls qui ont dit bon, je prends pas de licence, c'est vraiment parce qu'ils ont un ou deux autres sports à faire à côté, et qu'ils ont un emploi du temps beaucoup trop chargé. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un truc plaisir, c'est un truc qui sort de l'ordinaire, et pouvoir dire tiens, je joue au lacrosse, tiens, qu'est-ce que c'est, c'est vraiment c'est différent de dire je fais du foot, quoi. Et l'autre truc, c'est qu'il y a une proposition de valeur qui est hyper intéressante, de dire ok, si on est suffisamment, l'année prochaine on est en Ligue 1, tu vois. Donc ça, c'est quand même pas rien, c'est d'aller affronter, c'est assez facile d'aller faire un match contre Paris, si tu veux. D'ailleurs, Paris n'est pas du tout le leader du championnat de France pour l'instant, mais
c'est qui le leader?
Pour l'instant, c'est Toulouse, et enfin Toulouse a une très très bonne équipe, et Bordeaux, Toulouse, Orléans, et Bordeaux sont des très très bonnes équipes en France. Il y a Lille aussi, qui est un club historique, mais il y a la possibilité d'aller jouer en championnat de France. Et un point qui me tient vraiment à cœur, c'est que c'est au club d'Angers, en tout cas, c'est mixte. et un peu partout en France, ça l'est. Donc, il y a des filles qui jouent aujourd'hui avec les règles masculines, donc qui jouent avec nos contacts, parce que si les filles jouent uniquement entre elles, elles jouent à une version, la version féminine du lacrosse qui est sans contact, donc il n'y a pas de protection et il n'y a pas de contact. Mais les filles qui jouent avec nous jouent à la version mec. Il y a des contacts aussi, et c'est ultra cool de voir ça, quoi, de voir qu'en fait on peut passer des super moments il y a des filles qui font 50-55 kilos qui viennent me pousser, moi qui en fais 105, et c'est pas du tout un problème. Évidemment, l'appareil est pas la même, et moi je de mon côté j'essaie pas de les pousser aussi fort que je pourrais, mais en tout cas c'est pas parce que c'est une fille que je vais la laisser passer et je vais la laisser marquer. Et il y a cette notion de groupe qui s'est montée avec ça. Les derniers entraînements, on était quasiment paritaire. Le dernier gros entraînement à 14 qu'on a fait là, on était 7 filles, 7 garçons. Et c'est vraiment des super moments. Et les filles apprécient pas mal le lacrosse aussi, quoi. Donc c'est vraiment cool.
Ouais, forcément, la mixité aussi, c'est quelque chose qui est représentatif des valeurs aussi que le sport porte en global. Est-ce que ça fait partie, ouais, des valeurs simplement de lacrosse aussi, du lacrosse?
La mixité, oui, forcément. Après, il se trouve que au lacrosse, il y a des règles spécifiques pour les filles et qui sont pas les mêmes que les règles mecs. Alors personnellement, je trouve c'est un petit peu con. Désolé de l'expression, mais par contre, en boxe lacrosse, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc une équipe féminine, et là une équipe féminine de boxe lacrosse aurait, enfin peuvent jouer avec full contact entre elles, et ce serait vraiment génial. Donc il y a une compétition internationale qui va se faire à Lille, et qui sera ouverte aux filles aussi. Donc il est possible de monter une équipe full féminine pour une compétition internationale qui se jouera en décembre à Lille.
Avant de clore cette interview, Julien, je crois que Paulin, tu avais une petite question à poser à Julien.
Exactement, la question que je te pose, c'est là, si tu avais un message à faire passer à nos auditeurs pour éventuellement qu'ils essayent, ou même qu'ils viennent à rejoindre ce club de lacrosse, qu'est-ce que tu leur dirais?
De venir essayer, simplement. Je demande pas à ce que les gens s'inscrivent, mais venez essayer. Et vous verrez qu'en fait, à Angers, on n'est pas là pour la performance, pour le coup. Là, on a vraiment monté le club comme étant une bande de copains et de copines. À la fin, on va régulièrement boire des coups ensemble. On partage plus qu'en fait une heure et demie de sport par semaine ensemble. Et c'est vraiment du partage. Viens, vois si tu t'entends bien avec les gens, et en général t'auras envie de revenir parce que c'est un sport qui est assez cool, et viens essayer, quoi. Voilà, typiquement on s'entraîne à 14h à la halle Jacques Millot à Belbeil tous les dimanches.
Voilà, à nos auditeurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à foncer. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir. Julien, tu restes avec nous, bien sûr, on rappelle, président du club de lacrosse Angers. Tu restes avec nous pour parler un peu du sport. On va passer au volet international désormais. Avec toi, Maury, on va parler en premier du Paris-Roubaix qui a eu lieu ce week-end.
Avec l'événement inratable du week-end, j'ai envie de dire l'enfer du Nord, où Paris-Roubaix allait faire un scénario passionnant du début à la fin. La première partie de course a été marquée par une longue bataille d'usure, des tentatives, des chutes et une intensité permanente. Parmi les premiers faits marquants, Mats Pedersen, en très bonne position, a malheureusement crevé au moment d'une des premières attaques de Tadej Pogacar à 70 km de la ligne. Il n'a jamais pu revenir dans le coup pour jouer la gagne malgré ses efforts et sa très bonne forme, en tout cas c'est ce qui paraissait à ce moment-là. Devant donc le trio Philipsen, Van Der Poel, Pogacar s'est isolé en tête, puis à force d'accélération Philipsen a lâché, victime du rythme imposé par le Néerlandais et le Slovène. On se retrouve alors avec un mano à mano Van Der Poel Pogacar comme beaucoup l'espéraient. Mais à 30 km de l'arrivée, tout bascule dans un virage pavé. Pogacar chute, déraille, perd du temps et ne reviendra jamais. Mathieu Van Der Poel, lui, ne se retourne plus. Il file seul vers la victoire, la troisième consécutive à Paris-Roubaix. Un triplé historique dans un monument du cyclisme. Tadej Pogacar termine deuxième pour sa première participation après avoir animé la course de bout en bout. Et malgré sa crevaison plus tôt, Mats Pedersen vient chercher la troisième place qui prouve son talent et sa forme du jour qui aurait peut-être pu lui permettre de jouer encore mieux sans ce malheureux incident. Alors, j'ai pas de doute, autour de la table, vous avez regardé la course. Qu'est-ce que vous avez pu penser de ce duel tant attendu entre Pogacar et Van Der Poel? Paulin, je me tourne vers toi.
Bah, une très belle victoire de Van Der Poel. Il a complètement maîtrisé sa course et forcément, ceux qui aiment le spectacle, on s'attendait à ce que Pogacar l'accroche un peu plus, mais la chute qu'il fait le met un petit peu en difficulté et derrière, Van Der Poel maîtrise son sujet pour aller s'imposer.
Mathéo.
Moi, je suis toujours content, même si j'adore ce coureur-là, mais je suis toujours content de voir que Pogacar a des défauts quand même. Là aussi, on rappelle, tu l'as dit, mais quand même, c'est sa première participation. C'est sans doute ça qui lui coûte la victoire, forcément, parce que le parcours, il est vraiment très complexe. L'Enfer du Nord, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, le Paris-Roubaix. Donc, voilà, c'est vrai que ça a été une course assez haletante quand même. Ça a été hyper intéressant. On a eu des rebondissements. Maintenant, on s'attendait peut-être à un mano à mano plus final. On va dire.
Quand tu parles de défaut, j'ai envie de dire que c'est le défaut, c'est aussi sa plus grande qualité, c'est son panache qui fait qu'il va tomber. Parce que est-ce qu'il avait besoin d'accélérer autant dans ce virage, d'essayer de lâcher, parce qu'à ce moment-là, Van Der Poel est en difficulté hein, dans ce secteur pavé. Hein, il a du mal à tenir la roue de Pogacar, mais il va tellement vite dans ce virage et c'est son panache qui fait de lui le cycliste qu'on aime regarder, franchement, et qui fait que on était tous devant notre télé. Julien, t'as pu suivre la course aussi.
Est-ce qu'on connaît des multiples vainqueurs de Tour de France ou de grands tours qui sont capables de jouer la gagne sur Paris-Roubaix aujourd'hui?
Hino, Merckx, oui. Voilà. Donc, dans les années 80.
On parle de légende du cyclisme et là, de l'autre côté, on parle d'un coureur qu'on a la chance de voir aujourd'hui à la télévision et je me délecte de pouvoir regarder un tel coureur. Surtout suite à la saison qu'il a fait l'année dernière entre Giro, Vuelta et Tour de France. Je trouve ça totalement incroyable.
Et on félicite évidemment Mathieu Van Der Poel pour sa troisième victoire d'affilée. Chez les femmes, exploit monumental signé Pauline Ferrand-Prévot. Déjà championne olympique de VTT avec un palmarès immense. Elle gagne Paris-Roubaix. Elle, pour sa première participation, elle fait ce que Pogacar n'a pas réussi à faire. Alors qu'en plus, elle hésitait encore à prendre le départ la veille de la course. Elle tombe à 54 km de la ligne, elle revient, puis attaque à 25 pour s'imposer en solitaire. L'une des plus belles et sans doute plus inattendues. Victoire de sa carrière. Vous avez pu voir un petit peu la course aussi ou pas?
Ouais, moi je l'ai regardé. Déjà, bel exploit quand on prend en compte le fait qu'elle était malade en début de semaine hein, aussi. Et puis elle gagne avec, je crois, plus d'une minute d'avance en plus.
58 alors que, secondes, je crois.
Ouais, alors qu'elle n'était pas la grande favorite non plus. On sait que c'est quand même une coureuse tout terrain. On l'a vu au JO forcément. Mais de là à aller gagner le Paris-Roubaix, peut-être pas. Et là, elle l'a fait. C'est assez impressionnant. Faut dire aussi qu'il y a pas mal de favoris qui ne sont pas là. Hein. On rappelle que Elisa Longo n'a pas repris, elle qui est tombée dans le Tour des Flandres et qui malheureusement donc n'a pas pu prendre le départ du Paris-Roubaix. On rappelle aussi que Demi Vollering n'est toujours pas revenu, mais ça ne change rien à cette victoire, la première fois qu'une Française gagne le Paris-Roubaix, donc forcément nous on ne peut que être contents.
Et est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui peut-être le plus beau palmarès du cyclisme français en comparaison avec Jeannie Longo? Aujourd'hui, la question commence à se poser hein, pour Pauline Ferrand-Prévot.
Oui, Julien Absalon aussi, mais
je parlais chez les femmes.
Ben, Pauline Ferrand-Prévot, pour le coup, je pense que son passé de vététiste lui a peut-être un petit peu facilité la tâche sur un Paris-Roubaix. Ça n'empêche qu'elle vient de gagner son premier monument, c'est incroyable. Et effectivement, elle a gagné combien d'Olympiades? Elle a gagné.
Je sais que le palmarès est immense.
Et le palmarès devient vraiment monstrueux. Donc, pour le coup, c'était. On peut parler d'une légende aussi du cyclisme. Et on a l'immense chance qu'elle soit française.
Totalement. On va enchaîner avec de la Formule 1 et Oscar Piastri qui s'est imposé à Bahreïn avec autorité. C'est sa quatrième victoire en carrière et il confirme qu'il n'est peut-être pas seulement un deuxième pilote du côté de l'écurie anglaise. Lando Norris lui termine troisième après avoir commis quelques erreurs durant le week-end. Entre les deux, George Russell prend la deuxième place avec une course propre au volant de sa Mercedes. Derrière, Leclerc finit quatrième, Hamilton cinquième, les Ferrari montent du mieux par rapport aux courses précédentes. Max Verstappen, lui, a galéré ce week-end et termine sixième, freiné par une voiture capricieuse et une stratégie catastrophique au stand. En tout cas, des arrêts qui ont été beaucoup trop longs. Côté tricolore, Pierre Gasly finit septième et Esteban Ocon huitième. Les Français marquent donc des points. Paulin, t'as pu suivre un petit peu la course ?
Ouais, totalement. J'ai suivi la course. Bon, bah, performance de Verstappen qui laisse à désirer forcément quand on voit sa performance à Suzuka la semaine d'avant et sa victoire. Mais Piastri très fort, on sait que l'écurie McLaren va être très 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 difficile à aller chercher cette année.
Performance compliquée, mais je pense que la voiture a été très très compliquée, le choix des pneus n'a pas été le bon, donc il n'a pas forcément été aidé par son écurie. Eh ben, on est passé des pavés de Roubaix à l'asphalte de Bahreïn, direction les parquets avec toi, Paulin. Tu as pu vivre un match en direct de EuroLeague cette semaine, tu as pu regarder ce qui se passait du côté de la NBA. Je te laisse la main.
Allez, c'est parti, on s'attaque au basket européen. Personnellement, j'ai eu la chance de me rendre à l'Adidas Arena pour voir le Paris Basket de TJ Shorts et Nadir Ifi affronter l'Alba Berlin. Les supporters ont répondu présent, la salle était pleine à craquer et Paris a maîtrisé son sujet devant son public en s'imposant 72-63 face à un Albatros dont les ailes n'auront pas suffi pour voler la victoire. Paris affronte ce soir au play-in le Real Madrid en Espagne et leur dernière rencontre nous avait offert un beau spectacle avec Madrid qui s'était imposé d'un seul petit point, nous promettant une rencontre riche en émotions. C'est ce soir à 21h. On a aussi eu le droit à une nuit féerique pour le basket féminin français. C'était la draft de la WNBA et Dominique Malonga termine numéro 2 de cette draft et s'envole vers le Storm de Seattle rejoindre Gabby Williams. Elle évolue actuellement à l'ASVEL et elle est vue comme une des plus grandes espoirs du basket féminin français. Ça va faire du bien au basket féminin français, surtout sur la scène internationale et la scène américaine. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus, Amaury?
Non, c'est en plus très bonne franchise. Elle rejoint Gabby Williams là-bas du côté des États-Unis. Donc franchement, hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas énormément de Françaises dans l'histoire qui se sont exportées du côté des États-Unis et qui ont forcément réussi. On commence à le voir de plus en plus chez les hommes. Donc content que ça arrive aussi chez les femmes.
Exactement. Et mention spéciale à la numéro 1, Paige Buchers, qui termine aux Wings de Dallas. C'est vraiment le phénomène en termes de joueuse américaine. Et elle est championne universitaire en titre avec UConn. On continue avec la NBA. Ça y est, c'est l'heure des playoffs. Enfin, du moins, plutôt du play-in. Ça commence dès cette nuit. Les rencontres entre les 7e et 8e de l'Est et de l'Ouest. On se déplace d'abord du côté de la Floride pour y retrouver le Magic d'Orlando face aux Hawks d'Atlanta qui vont se battre pour rejoindre les Celtics de Boston au premier tour des playoffs. Et de l'autre côté des States, c'est proche du Golden Gate Bridge que l'on va retrouver le Chef Curry et sa clique pour affronter les Grizzlies de Memphis pour une place en playoffs face aux Rockets d'Ime Udoka. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on retrouve les Bulls de Chicago contre le Heat de Miami. Le vainqueur affrontera le perdant du Hawks Magic pour se battre le dernier ticket des playoffs et affronter les Cavs. Un peu plus tard, ce sera les Kings face aux Mavs. Pour le même résultat, le vainqueur affrontera Grizzlies ou Warriors pour ensuite rejoindre cette fois-ci l'équipe au meilleur bilan de toute la ligue, le Thunder. Les playoffs en NBA, ça nous promet du spectacle. On va avoir des affiches comme les Lakers face aux Wolves. Ça va être génial. Branchez-vous, ça commence dès samedi pour les premiers tours de playoffs. Je pense qu'on peut tous attendre du beau basket.
Merci Paulin pour cette parenthèse basket. Mathéo, on va te redonner la main pour nous parler et tennis et Ligue des Champions.
C'est ça. Et avant de finir donc par le gros sujet, forcément, quand on connaît en plus la soirée qui nous attend ce soir dans une petite dizaine de minutes bientôt, on va crocheté vers Monaco parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ce Masters 1000 de Monte Carlo. À commencer bien sûr donc par le super tournoi du numéro 1 français depuis mars, Arthur Fils, récital en 8e face à André Rublev, tête de série numéro 7 qui n'a pas vu la lumière, victoire 6-2, 6-3 avant d'affronter Carlos Alcaraz, duel de jeunes prodiges donc vendredi avec un Arthur Fils déterminé, rempli de qualité qui prend le premier set et qui passe tout près d'une victoire dans le deuxième, 5-5, 40-0 pour Fils qui peut prendre à ce moment-là et l'ascendant comptable et l'ascendant psychologique, mais qui voit Alcaraz à l'expérience revenir puis prendre ce deuxième set, ensuite le troisième, défaite glorieuse donc pour Arthur Fils qui continue son apprentissage et que l'on attend désormais au tournant à Roland-Garros. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a regardé ce match?
Alors, moi, j'ai pas spécialement regardé le match en direct. Je pense que Paulin l'a peut-être fait. Je sais qu'il suit beaucoup le tennis, mais j'ai regardé évidemment les résumés. Et franchement, ça donne de l'espoir pour Arthur Fils. On voit que sur terre, il arrive à concurrencer hein, Carlos Alcaraz. Forcément, c'est de bon augure pour la suite. Mais je vais pas en parler plus. Je vais laisser Paulin.
Franchement, quel plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là et frustrant de le voir s'incliner face à Alcaraz après la bataille qu'il délivre. Et comme tu l'as dit, Matteo, 5-5, 0-40 pour Fils. Il peut breaker et derrière servir pour le match. Bon, malheureusement, ça le fait pas. Mais en tout cas, ça donne vraiment de l'espoir. Il a enchaîné quand même 3 quarts de finale en Masters 1000. C'est beau. Là, il est à Barcelone, pour l'ATP 500. Il vient de battre Karen Busta. Donc, s'il peut aller chercher Barcelone, ce sera super. Et forcément, on l'attend au tournant pour Roland Garros.
Arthur Fils qui montre un niveau assez exceptionnel. Pourquoi pas aller accrocher un top 10 d'ici même pas un an, Paulin.
Ouais, exactement. Et puis, il y a la place. Quand on voit là les joueurs du top 10 qui se font souvent bousculer, on a vu Jack Draper là, qui est 6e, deux mineurs 7e. Franchement, il y a la place pour Arthur Fils et ça fait plaisir de voir un Français évoluer à ce niveau-là au tennis.
Même André Roublev, qu'Arthur Fils a été cherché plutôt facilement. On va passer à la Ligue des Champions désormais. On va faire un focus sur le Paris Saint-Germain. On parlera de l'OL et puis si on a un petit peu le temps, on essaiera de parler des autres clubs forcément. Le PSG qui s'est imposé sans grande surprise mercredi dernier face à Aston Villa au Parc des Princes, malgré l'ouverture du score initial du crack, hein, Morgan Rogers, les Parisiens égalisent, puis repassent devant grâce à deux merveilles de buts signés Désiré Doué et Gvara, des Parisiens ultra dominateurs. C'était attendu, 76% de possession, 29 tirs, presque 900 passes, et à la fin un troisième but qui permet aux Parisiens de se déplacer plus serein à Villa Park ce soir. Attention toujours à la mauvaise surprise, on l'a répété aussi la semaine dernière, même si là... ça paraît quand même plutôt loin, mais c'est parce que ce PSG semble tout à fait inatteignable cette saison. Qu'est-ce qu'on en pense, Amaury, de cette rencontre ce soir?
J'ai déjà envie de dire trois merveilles, parce que pour moi, le dernier but, cette passe entre les lignes, cette feinte de Nuno Mendes pour marquer, c'est magnifique aussi. Alors, c'est peut-être pas au niveau de ce but de Désiré Doué, évidemment, mais déjà pour moi, c'est trois merveilles de but des Parisiens mercredi dernier. Maintenant, moi, j'ai été très déçu de la performance d'Aston Villa, une équipe amenée par Unai Emery, qu'on sait capable de proposer du jeu. Et finalement, ils ont fait la même chose que Liverpool au match aller au Parc au tour précédent. Alors, ça avait marché finalement pour Liverpool. Alors, pourtant, ils avaient été surdominés. Ça a failli marcher, en tout cas en début de match pour Villa, qui était dominé, qui finit par marquer. Mais Paris n'a pas douté. Paris a même essayé. Désiré Doué n'a pas permis au PSG surtout de pas douter, parce que quelques minutes après, ils viennent à égaliser. Et derrière, ça a déroulé. Et j'ai envie de dire, une chance qu'il y a ce troisième but. Pas que Paris aurait été forcément en difficulté ce soir, mais ça vient quand même récompenser un match et une domination de tous les instants.
Si, le troisième but, il est presque impératif. Hein. Oui. Si ce soir, tu te déplaces à Villa Park, au bout de 10 minutes, tu prends un but. Ah oui. Avec l'ambiance qu'on connaît à Birmingham, c'est très important. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, le fait que Unai Emery ait peut-être pas fait le bon choix tactique. Ça s'est vu aussi dans certains changements, notamment donc la rentrée de Disasi, qu'on a vu largement fautif sur le but de Gvara, mais en même temps, ça c'était pas choquant, on s'y attendait. Disasi face au grand attaquant, au grand dribbleur, ça a jamais été une énorme réussite. Là, pour le coup, il le paye encore. Donc, c'est vrai que Unai Emery a fait des choix un petit peu douteux, mais en même temps, on peut pas tellement lui en vouloir quand on compare les deux effectifs aussi. C'est sûr, toi, Paulin, tu en penses quoi de ce match aller géré d'une main de maître, hein, on va le dire, par le Paris Saint-Germain?
Bah, je suis complètement d'accord avec vous, et surtout avec ce que tu viens de dire par rapport au choix d'Unai Emery. Et en fait, ça me laisse un peu en train de douter par rapport à ce qu'il propose, parce que pour ce soir, toujours pas d'Oli Watkins sur le flanc de l'attaque des Villans. Il est rentré, il n'était pas titulaire ce week-end. Villa s'impose 3-0. Il met un magnifique but.
Un bijou,
vraiment. Et toujours pas titularisé ce soir. Ça me questionne sur ce que peut proposer Villa ce soir. Parce que je m'attendais à ce que justement, il propose peut-être une équipe un peu plus offensive pour essayer d'aller chercher à marquer un but rapidement dans la rencontre. En tout cas, la compo ne le laisse pas entendre et le laisse pas comprendre. Donc j'ai quand même hâte de voir ce match. Villa Park, on sait qu'ils ont perdu que deux fois cette saison là-bas. Je pense quand même que Paris va faire l'affaire et va rejoindre les demi-finales.
Et 17 victoires de suite, toutes compétitions confondues aussi, c'est des stats assez marquantes quand même.
Ouais. Pour ce soir, moi, quand je vois Villa, tu dis, c'est pas forcément l'équipe la plus offensive. Forcément, quand même, même si sur la compo, ils ont pas mis tous leurs attaquants, ils vont devoir marquer. Et je pense que Villa est capable de marquer face à Paris. Maintenant, est-ce que Villa est capable de marquer deux buts face à Paris sans en encaisser? Ça, j'ai beaucoup plus de doutes. Donc, c'est-à-dire que Villa devrait marquer beaucoup pour inquiéter Paris. Et franchement, je pense pas que ça arrivera ce soir.
Puis s'ils attaquent, ils vont forcément laisser des espaces. Bon, on a Barcola, on a Gvara, on a Dembélé. Je pense que Paris peut avec la puissance offensive qu'ils ont, profiter des espaces.
C'est fou de citer l'attaque comme ça sans avoir besoin de citer Désiré Doué.
Eh oui.
C'est dire. Oui,
totalement.
C'est dire.
Parce que c'est aussi un joueur qui est moins percutant, moins direct, oui, non, mais, sur les contre-attaques, mais, aussi.
Évidemment,
mais c'est vrai que...
mais c'est dire à quel point l'attaque du PSG cette année est monstrueuse et fait plaisir à voir, même moi qui ne suis pas un grand supporter de Paris à la base.
Autre club qui a une attaque assez féroce en ce moment, on va parler de l'Olympique Lyonnais, forcément. Le match nul contre Manchester United, un peu décevant, forcément, au vu de la physionomie de la rencontre. L'OL a mené Manchester United, et c'est pas moi qui le dis, c'est Ryan Cherki, est venu pour défendre au Groupama Stadium. Tu l'as vu ce match,
J'ai
Marie
absolument pas vu le match, je sais plus ce que je faisais jeudi soir, mais je crois
quelle
que je devais regarder du sport quand
il faut,
même.
Il faut regarder
mais...
l'OL. Il faut regarder l'OL.
Je crois qu'il y avait d'autres sports, mais... Non, j'ai pas regardé le match.
Et toi, Paulin?
Bah, j'ai un petit peu suivi, mais là, la question que je me pose, c'est surtout de savoir, est-ce que l'OL peut aller le faire à Old Trafford? Il y aura de l'ambiance, du football anglais, forcément, on adore ça. Et si l'OL vient aller s'imposer là-bas, ça peut vraiment, vraiment être très, très beau.
Et André Onana, qui est pas sûr d'être titulaire, de ce que j'ai compris, et ce qui s'est passé ce week-end pour Manchester United.
Il sera pas titulaire.
Quand José Amorim, qui a dit, je mettrai les meilleurs joueurs, quand on lui a demandé si Onana serait titulaire, ça laisse rien de présager de bon pour le gardien mancunien.
Et c'est pas plus mal, honnêtement. Non. Pour nous, ça a été quand même assez bénéfique, le fait qu'il soit titulaire. Jeudi dernier, il a fait quand même deux belles erreurs. Il faut le dire, même s'il y a deux buts assez intéressants, hein. Surtout celui de Ryan Cherki, quand même la finition d'un vrai numéro 9 sur ce bout du pied. C'était assez étonnant. Et à la question, est-ce que l'OL peut le faire? La semaine dernière, on était avec Alex beaucoup moins rassuré qu'aujourd'hui, parce qu'on sait pas en fait ce que peut faire Manchester United. Manchester United est une équipe d'individualité, forcément. Là, on l'a vu sur cette rencontre encore une fois. On a l'impression que c'est pas un collectif qui s'entraîne ensemble, donc c'est assez compliqué. Et à la réponse, oui, l'OL peut le faire, et pour pas avoir de regrets sur ce match aller, l'OL se doit même de le faire, honnêtement. Donc on verra, mais c'est prenable. Et encore une fois, derrière, l'OL qui veut aller chercher l'Europa League, on a vu une équipe de Bilbao qui a fait match nul face aux Rangers, des Rangers qui en début de rencontre ont été réduits à 10. Donc il y a quand même des défauts dans toutes les petites équipes dissimulées un peu partout dans ce dernier carré d'Europa League. Et donc c'est intéressant, forcément, ça va nous donner une victoire finale, ou une course finale en tout cas, qui sera forcément très intéressante.
Il y a de quoi jouer pour Lyon sur cette fin de saison, entre
Exactement.
La Ligue 1 qui est hyper disputée et cette Coupe d'Europe, fin de saison pour les supporters lyonnais qui s'annonce haletante, Mathieu.
Exactement, on va suivre ça de très près, bien évidemment.
Eh bien, sur ce, on va pouvoir se quitter et vous dire à la semaine prochaine. Rendez-vous à la même heure, à 20h. Et oui, évidemment, on remercie Julien, notre invité aujourd'hui, qui nous a parlé de la crosse.
Merci beaucoup.